Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, François Duprat aux origines du Front National. Le 18 mars prochain, y sera-t-il Jean-Marie Le Pen, le président d'honneur exclu du Front National, observera-t-il, comme chaque année ou presque, ce rituel quasi sacré au cimetière Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris, pour rendre hommage à celui dont la tombe se trouve là, la tombe de son ancien compagnon de route, François Duprat. Il y a 40 ans, quasiment jour pour jour, le 18 mars 1978, François Duprat mourait dans un attentat à la voiture piégée. L'enquête, qui aboutit sur un non-lieu en 1982, laisse planer, aujourd'hui encore, le doute autour des responsables de la mort de cet homme mystérieux. Inconnu du grand public au moment de son décès, il est pourtant, en 1978, une figure centrale de l'extrême droite depuis bientôt 15 ans, mais dans l'ombre. Alors, qui est François Duprat? Qui se cache derrière cet homme de l'ombre, intellectuel et indique, professeur et fasciste, militant et négationniste? Quel est son rôle dans l'extrême droite des décennies 60 et 70? Réponse après le récit avec notre invité, Nicolas Lebourg, historien. Il a suivi l'itinéraire de Duprat d'archives en témoignages et il en a tiré un livre intitulé « François Duprat, l'homme qui inventa le Front National », publié chez De Noël en 2012. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio et David Jacuboviez.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Mars 1978. Ce samedi, il est un peu plus de 8h sur les hauteurs du village de Trey, entre Rouen et Le Havre, en Haute-Normandie, quand la Citroën GS Bleu sort du garage. À son bord, un professeur d'histoire-géographie de 38 ans, l'air débonnaire, d'épaisses lunettes déposées sur son visage rond, des tracts sous le bras. Il s'appelle François Duprat. Il est assis sur le siège passager, sa mauvaise vue l'empêche de conduire. Alors comme chaque matin, c'est sa femme, Laurence, qui prend le volant en direction du collège Victor Hugo de Côte-Bec-en-Caux, à quelques kilomètres de là. Ces dernières semaines n'ont été pour le moins chargées pour François Duprat. Ce n'est pas tant les cours qui lui prennent du temps, non. Hypermnésique, passionné, enflammé, il assume sa fonction de professeur avec cœur. Non, ce qui lui a pris du temps, c'est de battre campagne, celle des législatives. Depuis des semaines, François Duprat fait des allers-retours entre la province et Paris, participe aux réunions, rencontre les cadres et militants, fixe les thèmes à suivre d'un petit parti encore peu connu, le Front National. Ce 18 mars 1978, nous sommes à la veille du second tour. Au premier, les résultats, 0,7% des suffrages dans sa circonscription, sont plus que décevants, dignes d'un parti nain qui ne sert à rien, puisque personne ou presque ne le connaît. Dans la société du politique médiatique, c'est le plus gros handicap qui soit. Alors, pour motiver ses troupes, Duprat annonce à qui veut l'entendre que la gauche peut remporter ses élections, entraînant mécaniquement la décomposition des droites, ouvrant le champ à l'essor du Front National. Seulement voilà, François Duprat ne saura jamais que sa prophétie ne s'est pas réalisée, que les Français, pour la dernière fois, ont eu peur de la gauche et que, pour la dernière fois, ils ont écouté leur président, Valéry Giscard d'Estaing, qui leur disait dans son discours de Verdun sur le Doubs, sans le dire explicitement bien sûr, que la gauche au pouvoir, c'était la catastrophe. L'arrivée des chars soviétiques sur les champs, enfin, toutes ces bêtises qui, dans la France des années 70, trouvent encore un écho assez large. Non, Duprat ne verra pas l'entêtement des Français, car ce 18 mars 1978, sur la route départementale qui le mène à son collège, une bombe explose sous son siège. La voiture vole en éclats, lui et sa femme sont projetés à l'extérieur de l'habitacle, pulvérisés. Quelques heures plus tard, l'information fait la une des journaux télévisés.
On ne sait pas encore pour quelle raison un candidat du Front National a été tué dans un attentat ce matin peu avant 9h. Un quart d'heure environ après avoir quitté son domicile à Tré, en Seine-Maritime, en compagnie de sa femme, M. Duprat, âgé de 37 ans, a été déchiqueté par une bombe qui piégeait sa voiture. L'explosion a été si puissante que la voiture a été véritablement pulvérisée dans un rayon de 100 mètres. M. Duprat était professeur d'histoire au collège de Côte-Bec. Il a été tué sur le coup. Sa femme est très grièvement blessée.
Deux ans après l'assassinat de Jean de Breuil, un an avant la mort mystérieuse du ministre Robert Boulin, retrouvé noyé dans quelques centimètres d'eau dans la forêt de Rambouillet, l'assassinat de François Duprat rappelle la violence qui frappe le monde politique à cette époque. Les Français découvrent, le temps d'une information et de quelques hommages épars, l'existence de cet homme jusque-là inconnu, un certain François Duprat. Activiste, chroniqueur, théoricien et stratège d'une frange politique qui depuis quelques années frémit de nouveau l'extrême droite. Et c'est de ce côté-ci du champ politique que François Duprat mène son combat, un combat qui commence 20 ans plus tôt.
Dans toutes les communes se sont constitués les comités de salut public qui nous étaient recommandés par le comité d'Alger.
mai 1958 à Alger. Lorsqu'il prononce son discours sur le balcon du bâtiment du gouvernement général, le général Massu, président d'un comité de salut public tout juste créé, acte la rupture avec le gouvernement de la 4e République, présidé par Pierre Pfimelin, tout juste investi, représentant d'une république parlementaire chimiquement pure, adepte d'une démocratie courageuse comme celle de tous nos voisins européens d'aujourd'hui, qui font confiance à leur peuple, représenté par les députés. Or, le 15 mai, ce jour-là, la France bascule d'une rive à l'autre. 13 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la 4e République vit ses derniers jours et s'apprête à céder sur la crise algérienne et laisser le champ libre à un pouvoir personnel sans partage. En ce printemps 1958, du côté de Bayonne, un jeune homme de 18 ans est lui aussi entre deux rives. Celle banale d'un jeune lycéen qui s'apprête à passer son bac de philo, celle plus originale d'un jeune militant encarté depuis quelques mois dans un mouvement semi-clandestin d'extrême droite, Jeune Nation. Le choix de François Duprat a de quoi surprendre quand on sait qu'il est issu d'une famille de gauche dont le père, ancien résistant, est connu pour être sympathisant communiste. Composé d'une centaine de membres, le mouvement Jeune Nation regroupe des anciens d'Indochine, des jeunes militants gaullistes ou encore d'anciens collaborationnistes. Organisé en partis, hiérarchisé et centralisé, l'association se réfère au fascisme. Elle en arbore d'ailleurs le symbole, la croix celtique. Rêvant d'un état de type mussolinien, le parti entend favoriser l'arrivée des militaires au pouvoir pour renverser la République, lutter contre le communisme et défendre l'idée de l'Algérie française. Le groupe voit dans l'insurrection du 15 mai 1958 l'occasion toute trouvée. Mais le 17 mai de cette année-là, Jeune Nation, comme de nombreuses autres mouvances activistes, déchante lorsque Pierre Pfimelin, le président du Conseil, réagit.
Dans la métropole même, des dangers apparaissent pour l'ordre public. Le gouvernement a décidé la dissolution d'un certain nombre d'organisations subversives. Il a décidé par ailleurs de déposer dès demain matin un projet de loi instituant dans la métropole l'état d'urgence.
Comme d'autres, le mouvement Jeune Nation se retrouve dans la clandestinité. Un statut en somme dans la continuité de celui des mouvances d'extrême droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après l'épuration, en effet, l'extrême droite est une sorte de nébuleuse constituée de groupuscules, souvent composés de seulement quelques membres aux trajectoires et ambitions, et parce qu'ils ne s'entendent pas vraiment et qu'ils sont incapables de se réunir. Si Jeune Nation ressort quelque peu au sein de cette mosaïque marginale, c'est que le mouvement était influencé par un homme à la fois théoricien et stratège, Dominique Werner. Jeune comme la plupart des membres du groupe, 23 ans, Dominique Werner est totalement dévoué à la cause nationaliste. Il a investi tout son héritage dans Jeune Nation. Il allie une allure militaire à des réflexions stratégiques. C'est aux côtés de cet homme que François Duprat entre en activisme. En octobre 1958, alors que le désormais bachelier intègre une classe préparatoire littéraire du côté de Toulouse, Dominique Vénère lui confie la responsabilité du parti dans la région. Duprat est donc chargé de recruter des militants, de les organiser, d'élaborer la propagande. Au contact de Vénère, Duprat forge son nationalisme radical autour de trois combats à mener. L'anti-parlementarisme, l'anticommunisme et la défense de l'Empire français. Une lutte qui doit passer par la violence révolutionnaire. Jeune nation interdite, les deux hommes fondent le Parti nationaliste français en référence au Parti national fasciste de Mussolini. Nouveau sigle et un programme qui s'affirme, comme en témoigne sa rédaction en 13 points, rédigé le 6 février 1959 à Paris.
Renverser la République. Suppression des pratiques électorales. Élimination des partis multiples. Éviction des métèques. Châtiment des coupables. Sauvegarde du patrimoine national. Refonte de l'armée. Un logement pour chaque Français. Appropriation des entreprises. Instauration d'un syndicalisme corporatif. Élimination du capitalisme apatride et des revenus sans travail. Instaurer l'État nationaliste. Construire l'Europe.
Le PNF est à son tour rapidement interdit. Peu importe, François Duprat et Dominique Vénère continuent leur route. Pour Duprat, ce sera du côté de Paris. Il intègre le lycée Louis-le-Grand et la préparation du concours de l'école normale supérieure. Il lui faut peu de temps pour se faire un nom du côté du quartier latin. Ici, il est arrêté pour distribution de tracts, là pour une rixe entre étudiants, plus loin pour un incendie contre une librairie parisienne de gauche. L'étudiant passe par la case prison et devient un digue de la police. Petit à petit, l'activité militante prend le pas sur l'étudiant. Il rate le concours de l'école normale supérieure et poursuit son parcours à l'université. C'est sur le terrain universitaire, justement, que les jeunes militants du mouvement Interdit Jeunes Nations s'emploient à poursuivre leur lutte. Est alors mise sur pied une fédération des étudiants nationalistes. Au premier plan de ce syndicat, on retrouve François Duprat. C'est d'ailleurs à ce titre que s'opère un rapprochement au sein de l'extrême droite. Le 1er juin 1960, à Avignon, il est invité à représenter le monde étudiant au congrès de l'Union des commerçants et des artisans, le mouvement de Pierre Poujade. Si l'expérience est de courte durée, François Duprat retient que les petits commerçants peuvent servir de base sociologique à la révolution nationaliste qu'il appelle de ses voeux. La Fédération des étudiants nationalistes se scinde pourtant peu de temps après sa création. À l'origine de la rupture, une différence de point de vue opérée par Dominique Vénère, le théoricien de Jeunes Nations. Celui-ci appelle à la fin les actions violentes pour réunir les deux franges de l'extrême droite irréconciliables jusque-là, les nationalistes qui sont sur une ligne révolutionnaire et violente, et les nationaux plus modérés et favorables, eux, à une stratégie électoraliste. La FEN se réoriente dans ce sens. Ce qui n'est pas du goût de tous, notamment de François Duprat. Accompagné d'autres étudiants de sa mouvance, comme Alain Madelin ou Gérard Longuet, il rompt avec le syndicat de droite et fonde le mouvement Occident qui se fait rapidement connaître par son activisme débridé et ses actions violentes répétées. D'ailleurs, quelques années plus tard, c'est ce groupe qui se retrouve sur le devant d'une scène prête à éclater.
Il y a effectivement un commando du groupe d'extrême droite Occident qui est arrivé à 8h moins le quart. Je crois qu'ils sont arrivés en estafette. Ils étaient une vingtaine avec un matériel extrêmement pesant qu'ils déplaçaient dans des valises.
Quels sont les dégâts alors ?
Les dégâts sont relativement importants. Ils ont essayé d'entrer dans les groupes d'études, ils ne sont pas parvenus, mais ils sont rentrés dans les bureaux de la Fédération des groupes d'études de lettres. Et là, ils ont d'une part brisé tout le matériel, alors les vitres, les chaises, les bureaux, c'est encore pas dramatique, mais un certain nombre de machines, en particulier des Renault et des machines à écrire, il y a pas mal de dégâts. Et ils ont essayé de mettre le feu aux locaux. Les pompiers sont venus pour essayer d'éteindre un début d'incendie.
Le 3 mai 1968, un raid avorté d'Occident sur la Sorbonne provoque des affrontements avec d'autres étudiants de gauche et plusieurs interpellations. Le quartier latin, puis la France entière, s'embrasse pour un printemps de révolte. Mais où est François Duprat pendant ce mois de mai si particulier ? Eh bien, il est là, à Paris, dans le quartier latin, où il vit. Comme l'extrême droite dans son ensemble, il suit les événements de l'extérieur. toujours englué dans de nombreuses dissensions et interdictions, les différents groupuscules ne parviennent pas à se consolider. En novembre 68, Occident est interdit et dissous. De son côté, François Duprat opère un glissement. D'abord opposé à la voie proposée par Dominique Venner, celle d'un parti unificateur des différents courants de l'extrême droite, les événements de mai, le départ du général de Gaulle et son propre parcours modifient son regard. C'est ainsi qu'un an après mai 68, François Duprat est à la tête pensante, est une tête pensante et même la tête pensante d'un nouveau mouvement lancé en décembre 1969, Ordre Nouveau, dont l'un des leaders, Jean-François Galvert, explique les ambitions.
Monsieur Galvert, vous avez appelé à un 13 mai nationaliste. Nationaliste, qu'est-ce que ça veut dire ?
Nationalisme, nos ennemis prétendent, nos diffamateurs aussi. Il s'agit de nazisme, de néo-fascisme. Pour nous, c'est beaucoup plus simple. Peu à peu, il a bien fallu que nous nous donnions un nom. Celui qui nous était offert parce qu'il restait honorable, dégageait toutes les compromissions, c'était celui de nationaliste.
Pour beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent parler de nationalisme, le mot sonne un peu avec un accent germanique. C'est ça qui gêne, non ?
Haine comme nazi. Bon, moi, ça me gêne pas.
Certains vous accusent d'être raciste et antisémite.
On pourra nous couvrir à tour de bras d'injures, en particulier, on pourra nous reprocher d'avoir favorisé la crémation des Juifs pendant la guerre. Nous avions, pour les plus vieux d'entre nous, quelques 3 ans à ce moment-là. Un jour, nous nous fâcherons. Un jour, nous ferons des procès à ces gens-là. Pour l'instant, les chiens aboient, la caravane passe.
Avec Ordre Nouveau, moins de 15 ans après la guerre, la geste fasciste renaît ses cendres. Le coup est bien pensé. La veille de la tenue du meeting fondateur, une bombe fait exploser la salle louée. Alors, on soupçonne et on dénonce les militants gauchistes. En réalité, il semblerait que ce soit les membres du nouveau mouvement qui posent eux-mêmes les bombes. Sorte de stratégie de la tension, comme on dira plus tard concernant l'extrême droite en Italie pendant les années de plomb. Duprat met aussi en place une stratégie provocatrice pour qu'on parle du mouvement, symbole, sigle, slogan, reprenne ceux des fascismes européens. Et le succès est au rendez-vous. Oui, en tout, 3500 militants passeront par Ordre Nouveau, l'écho médiatique est lui aussi très efficace. Ainsi, 2 ans après sa création, le 9 mars 1971, dans le cadre des élections municipales, un nouveau meeting est organisé par Ordre Nouveau au Palais des Sports de Paris. L'événement fait la une de l'actualité. À ce meeting, la nouvelle stratégie de l'extrême droite est ouvertement affichée et c'est François Duprat qui l'expose.
Le mouvement est apparu comme la seule force organisée de l'opposition nationale, ce qui nous a permis de définir et de faire approuver une politique de Front National incluant un accord entre Ordre Nouveau et les personnalités de l'opposition nationale.
Quelles préoccupations dans la politique intérieure française ont intéressé vos débats ?
Bien, essentiellement, la persistance de notre action, à la fois contre le gouvernement, en la basant sur le plan des scandales, sur le plan des mouvements de contestation sociale qui existent à l'heure actuelle, et sur un plan permanent de notre lutte contre le communisme, contre le marxisme.
Présent à cette réunion, dans la salle, on retrouve un homme de 43 ans, d'une autre génération et d'un autre parcours. Un homme qui lui aussi trace son chemin du côté de l'extrême droite nationaliste depuis quelques années. Cet homme s'appelle Jean-Marie Le Pen et sa route va bientôt croiser celle de François Duprat.
I can't get me no when I'm riding in my car.
5 octobre 1972, Paris. Ils sont 70 dans la salle. Les discussions durent depuis des semaines. L'objectif, lui, est annoncé depuis plusieurs mois, la création d'un Front National qui réunirait toutes les tendances de l'extrême droite française pour déplacer la lutte de la rue vers le terrain électoral. Objectif ambitieux au vu des querelles et des affrontements que ce courant connaît depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il a fallu persister et il a fallu surtout convaincre, notamment la tendance nationaliste révolutionnaire pour qui la participation démocratique est depuis toujours considérée comme une sédition. Et c'est à François Duprat, présent ce jour-là, que revient la tâche de rassembler tous ces courants. Pour y parvenir, il fait comme souvent, il s'appuie sur sa bonne connaissance de l'histoire et de la situation à l'échelle internationale du fascisme et des mouvements nationalistes. En ce début de décennie 70, c'est du côté de l'Italie qu'il regarde. Le MSI, parti néo-fasciste, qui rassemble l'ensemble des forces d'extrême droite de la péninsule, a remporté de bons résultats électoraux grâce à la création d'un parti unifié. Alors, ce 5 octobre 1972, le Front National naît et sa structure se met en place. Une motion est adoptée qui stipule que le parti sera dirigé par une coprésidence, parmi eux Jean-Marie Le Pen. Celui qui fut dans les années 50 le plus jeune député de l'histoire sous le mouvement de Pierre Poujade, engagé en Indochine et en Algérie, est connu à l'extrême droite, notamment pour sa verve et son charisme. Et si depuis quelques années, il a pris ses distances avec le terrain politique, l'occasion Front National lui paraît être une bonne opportunité pour revenir sur le devant de la scène. François Duprat, de son côté, et les autres membres d'ordre nouveau voient en lui un parfait leader, peu porté sur l'idéologie, mais bon représentant pour la stratégie Front National. Par ailleurs, la coprésidence permet aux différentes tendances de l'extrême droite de cohabiter au sein de ce Front National. Jean-Marie Le Pen expose les grandes lignes de ce nouveau parti.
Je crois que tout le monde ne peut que se féliciter que des courants qui ont été méfiants à l'égard des élections entrent aujourd'hui dans la bataille électorale. Je pense que peut-être les expériences du passé récent ont enlevé à beaucoup certaines illusions et que, par conséquent, ils admettent, dans cette espèce de grand front qui a aussi une aile droite, un centre et une aile gauche, les gens qui avaient peut-être des tentations non électoralistes admettent maintenant que la bataille politique se déroule réellement à l'échelon électoral et avec les méthodes démocratiques.
Vos affiches, par leur graphisme, par leur slogan, ressemblent à celles du MSI des néofascistes italiens. Que faut-il en déduire ?
Je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Et quant au slogan qui a peut-être été utilisé par le MSI et que nous utilisons, il correspond peut-être à une identité de situation et de danger. Mais je puis vous dire personnellement que je n'ai aucun contact, pour l'instant en tout cas, avec les dirigeants du MSI.
Mais l'union est de courte durée. Une fois encore, l'extrême droite est rattrapée par ses dissensions. En février 1973, en pleine préparation pour les élections municipales, premier vrai test pour la nouvelle formation politique, un article publié dans le Canard enchaîné révèle que François Duprat s'est rendu à l'hôtel Matignon pour négocier avec le gouvernement. Au sein d'Ordre Nouveau et du Front National, on le soupçonne d'avoir passé des accords avec la droite qui craint une victoire de la gauche. François Duprat est donc exclu des deux partis. Quelques mois plus tard, le scrutin est un échec complet pour le Front National. Du côté d'Ordre Nouveau, eh bien l'histoire s'arrête en juin 1973.
Conseil des ministres, premier résultat, le seul que nous possédions jusqu'à présent, la Ligue communiste et Ordre Nouveau ont été dissous par le gouvernement. Raymond Marcellin l'a annoncé au micro de Jean-Jacques Moria.
Ils ont été dissous. Dissous, tous les deux. Toutes les deux ligues.
Dissoutes, oui.
Seulement ces deux organisations, pas d'autres.
Deux organisations ont été dissoutes, oui. Et puis, il y aura des conséquences judiciaires pour tous ceux qui se livreront à des violences. Il est impardonnable ce que la Ligue communiste a fait aux policiers.
Malgré ces nouveaux coups d'arrêt, François Duprat ne baisse pas les bras. Cette année-là, on le retrouve du côté du Nouvel Ordre Européen, une internationale néo-nazie. Ce passage éclair auprès de cette organisation rappelle une thématique menée, imposée par François Duprat, celle du négationnisme. Il est en effet l'un des premiers en France à avoir importé cette idée, à l'imposer du côté de l'extrême droite. Dès la fin des années 60, il avait déjà commencé à collaborer à la revue Défense de l'Occident de Maurice Bardèche. pour Duprat, le génocide des Juifs serait un mensonge grâce auquel la culpabilisation et la soumission des peuples s'opéreraient. L'objectif de Duprat est toujours le même, parvenir à rassembler les différents courants de l'extrême droite. Ce discours antisémite réactualisé lui permet ainsi de continuer à tenir les groupuscules néo-nazis et néo-fascistes. Et comme souvent depuis 10 ans, à l'extrême droite, on rappelle Duprat après l'avoir exclu. En 1974, un an après son éviction, Jean-Marie Le Pen l'impose de nouveau au sein du Front National, contrairement à l'avis de plusieurs des cadres du parti. C'est qu'entre les deux hommes s'impose une relation de nécessité. Duprat trouvant Le Pen l'homme le plus à même d'être le leader de son courant, l'incarnation, Le Pen, lui, est attaché à Duprat pour ses analyses et sa connaissance des milieux de l'extrême droite. Alors ensemble, les deux hommes se lancent dans la campagne présidentielle de 1974. Le Pen en expose ses attentes.
Nous sommes la droite, oui. Nous sommes la droite populaire, qui est hantée sur les valeurs traditionnelles qui, à nos yeux, ont fait les 2000 ans de notre histoire. Nous sommes la droite sociale, qui ne sépare pas l'amour de la patrie de l'amour de son peuple. Nous sommes aussi la droite nationale, qui, pour qui le culte de la patrie est la forme la plus élevée de la solidarité entre les hommes de notre peuple.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu prétentieux, passez-moi l'adjectif, au regard des résultats de l'extrême droite, disons, lors des dernières élections législatives qui n'ont jamais dépassé 1% des suffrages exprimés?
À partir du moment, si vous voulez, où je vous fais l'aveu très volontiers d'être la droite, je préfère que vous ne disiez pas l'extrême droite, parce qu'en effet, il y a dans notre Front National des gens qu'on peut résolument ranger sous le titre d'extrême droite, et qui d'ailleurs en sont fiers, et il y a aussi des gens de droite.
Malgré un résultat électoral de nouveau décevant, François Duprat, Jean-Marie Le Pen et le Front National maintiennent leur option. Pour les deux hommes, l'objectif est clair. Le Front National doit s'imposer comme la force politique capable de réunir tous les courants de l'extrême droite. Sur ce terrain, il doit faire face à une concurrence qui se reconstruit notamment autour du PFN, le Parti des Forces Nouvelles, formé par d'anciens membres d'Ordre Nouveau. Là encore, Jean-Marie Le Pen compte sur François Duprat et sa capacité à naviguer au sein des mouvances nationalistes pour remporter la mise. En 1976, au congrès du parti, Duprat et ses soutiens récupèrent la plupart des postes importants. Duprat travaille à la construction et la consolidation de la base militante du parti. Une base qui ne saurait se passer des nationalistes durs de l'extrême droite. Ainsi, il fonde les groupes nationalistes révolutionnaires qui regroupent des groupuscules néo-nazis et néo-fascistes. À ces derniers, il explique qu'il a besoin d'eux, que la participation électorale n'est qu'une vitrine, que l'occasion révolutionnaire se présentera sous peu. Et pour rassembler et consolider cette base, il durcit le discours. C'est notamment Duprat qui impose le thème de l'immigration au Front National. Un thème et un slogan, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Derrière ces mots du candidat Le Pen, en février 1978, pour la campagne des législatives, on entend donc la pensée de François Duprat.
Nous considérons qu'avec 5 millions d'étrangers, la France est en train de se préparer, se pose déjà des problèmes très graves, et est en train de se préparer des solutions dramatiques. Nous affirmons que quand il y a 1 million de chômeurs en France, il est anormal que ces places ne soient pas réservées aux nationaux plutôt qu'aux étrangers. De surcroît, nous affirmons que le travailleur étranger est un travailleur qui coûte beaucoup plus cher qu'un travailleur national. Il ne paie pas d'impôts, il exporte l'argent qu'il gagne, il profite de tous les avantages sociaux qui sont extrêmement coûteux, en quelque sorte sans contrepartie. Et nous pensons que nous allons mobiliser sur ce sujet beaucoup d'électeurs qui jusqu'ici votaient à gauche. Et c'est en ce sens que notre campagne risque d'être très intéressante, d'autant que nous appuyons un autre point très important qui est la lutte contre l'insécurité publique.
Au sein de ce parti peu connu qui parvient difficilement à présenter des candidats et compte quelques milliers de militants seulement, François Duprat s'est imposé comme l'idéologue, le théoricien, un numéro 2 dont ne peut se passer Jean-Marie Le Pen. Et pourtant, c'est cet homme-là que le Front National, quelques jours plus tard, perd dans un attentat à la voiture piégée.
C'est à 6h30 précise qu'a débuté l'office religieux qui se poursuit en ce moment. L'entrée de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay était contrôlée par des militants du Front National. Tous sacs et paquets ont été ouverts. À l'intérieur, une foule nombreuse, importante, silencieuse se presse. Le catafalque, couvert d'un drapeau tricolore, est entouré d'une garde d'honneur de quatre jeunes gens. Le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, est assis à droite de la dépouille. C'est Monseigneur Ducos-Bourget qui célèbre l'office. Sur les bords de la nef et devant l'entrée, des jeunes, cheveux courts, en imperméable vert, gantés et avec un parapluie noir roulé à la main, ne quittent pas l'assemblée des yeux. À l'issue de cette messe funèbre, la dépouille de François Duprat restera dans l'église en une chapelle ardente. L'inhumation aura lieu demain matin au cimetière Montmartre à Paris.
Et à la fin de la cérémonie, Jean-Marie Le Pen est l'un des premiers à réagir.
Il ne fait donc pour nous absolument aucun doute, et je crois pour personne, qu'il s'agit d'un attentat criminel. Je regrette que certains aient cru pouvoir le qualifier de regrettable incident électoral. Monsieur Duprat n'était plus en campagne électorale depuis 8 jours, et il est évident que l'homme qui a été visé, c'est le dirigeant politique, c'est le journaliste courageux et de talent, et c'est aussi le penseur politique qu'il était.
En résumé, qui a assassiné François Duprat et pourquoi? Ces questions, la police et la justice pendant 4 ans essaient d'y répondre sans y parvenir. Tour à tour, de nombreuses pistes sont évoquées, creusées puis abandonnées, à l'image d'un homme dont le parcours autant que les idées n'auront cessé d'évoluer. Autant de questions donc restées sans réponse et qui soulignent à nouveau le parcours et la personnalité trouble, ambiguë de cet homme, Duprat. Capable de réunir des groupes néo-nazis dans une perspective révolutionnaire nationaliste et de développer dans le même temps des stratégies électoralistes qui, 30 ans plus tard, s'imposeront dans le débat politique, Duprat inscrit son nom dans l'histoire des idées contemporaines. À sa mort, ses soutiens furent petit à petit exclus du Front National. Reste qu'à l'image du rituel annuel de Jean-Marie Le Pen qui rend hommage à ce compagnon de route, Duprat reste pour l'extrême droite française une figure tutélaire.
Lying on its side, the ruins of the dead, painted with a scar, and the more I straighten out, the less it wants to try. The feelings start to rise.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'itinéraire de François Duprat, racine du Front National. Notre invité, Nicolas Lebourg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien au CEPEL, le Centre d'études politiques de l'Europe latine à Montpellier. Vous êtes l'auteur du livre intitulé « François Duprat, l'homme qui inventa le Front National », publié chez De Noël en 2012. Et vous êtes en direct de Perpignan. Je rappelle que cette émission est effectivement en direct. Et vous, vous êtes à Perpignan. Bien. Alors, on va revenir évidemment sur ce personnage de François Duprat, et notamment sur sa mort que l'enquête n'a jamais résolue. Vous, vous êtes plongé dans cette enquête. Alors, ce mystère dit quelque chose du parcours trouble de Duprat. Parmi les zones d'ombre, notamment, il y a un détour par l'Afrique, au Congo et au Nigeria dans les années 64 et 65. C'est une période que nous n'avons pas évoquée dans le récit. Pouvez-vous revenir avec nous sur ces points-là, sur cet itinéraire africain? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il a des conséquences ensuite?
Il est intéressant. Avec Joseph Beauregard, qui était mon co-auteur pour le livre, c'est un des points sur lesquels c'était assez difficile, l'Afrique. On a contacté beaucoup de gens, on a fait 120 entretiens pour cet ouvrage. Je continue à m'intéresser à François Duprat et à obtenir des archives sur lui. Il y a quelques mois, j'ai appris ainsi, grâce à un document officiel, qu'il était parti d'Afrique bêtement, semblerait-il, avec des chèques impayés. Comme d'habitude, il avait monté une espèce de petite embrouille locale et il avait dû régler le problème. Maintenant, on le retrouve très proche du régime également, parce qu'il y a des régimes nationalistes partout dans le monde. Dans le cadre de la guerre froide, on a besoin de techniciens de la lutte anticommuniste. Et Duprat grenouille dans tout ça, de même qu'il travaille avec le Redressement économique, qui est une entreprise spécialisée dans les bureaux d'études en Afrique pour ramener de l'argent en France pour financer les campagnes électorales. Mais ce sont des gens qui vont plutôt travailler pour François Mitterrand en 1974, pas Jean-Marie Le Pen. Donc Duprat peut mener la campagne de Jean-Marie Le Pen d'un côté et soutenir Jean-Marie Le Pen, et de l'autre côté être un technicien de ce genre de choses, par contre pour l'autre côté de l'échiquier politique.
Alors, au moment de sa mort, il écrivait un livre sur le financement des partis politiques qui, disait-on, allait éclabousser certaines personnalités importantes. C'est vrai ça, on sait ce que allait dire ce livre ou pas?
On l'a le manuscrit, on l'avait récupéré avec Joseph. Alors, le plus intéressant n'est pas ce qui a été cité dans la presse. Il y a un synopsis qui paraît parce que l'éditeur espère faire sortir la chose et donc essaye un petit peu, pardonnez-moi le terme, de faire mousser. En fait, le plus intéressant, ce sont des liens entre le patronat qu'affirme Duprat, entre le patronat et des financements de milices qui pourraient servir à une éventuelle déstabilisation du pays en cas de victoire de la gauche. Là, il y a des choses qui sont effectivement pertinentes et intéressantes. Après, pour l'essentiel, il revient sur le redressement économique, l'entreprise que j'évoquais, et il parle beaucoup du rôle d'un Georges Albertini, qui est quelque chose de plus connu aujourd'hui, qui avait été le bras droit de Marcel Déat durant l'occupation, et qui avait toute l'oreille du président Pompidou, et qui était également un homme des milieux patronaux.
Alors vous dites que ce Duprat est un peu obsédé par une éventuelle victoire de la gauche, mais qu'en même temps vous dites qu'il pouvait très bien travailler pour Mitterrand, enfin, c'est ce qui m'échappe là. Et c'est un homme qui a quand même... Alors, il y a quand même des convictions, en tout cas, il a des convictions d'une certaine droite, donc je comprends
c'est
pas.
C'est un fasciste. Ouais. C'est un fasciste autoproclamé. Il se définit lui-même comme fasciste, donc on gagne du temps. c'est quelqu'un qui est d'un antisémitisme farouche. Ça le prend vers ses 14 ans, dans une famille où ce n'est pas du tout coutumier, où on considère au départ que c'est la crise d'adolescence un petit peu stupide, et c'est quelque chose qui va orienter toute sa vision du monde. C'est d'ailleurs très clair dans les écrits de François Duprat, dans ses livres, on lit parfois des choses tout à fait intelligentes. Et puis s'il y a un personnage juif qui arrive dans l'histoire, d'un coup d'un seul, ça déraille. Son raisonnement déraille, il arrive au bout. Ça, c'est ses deux grandes convictions. C'est un fasciste, c'est un antisémite. Après, c'est quelqu'un d'extrêmement souple et c'est quelqu'un d'extrêmement joueur, d'extrêmement ironique et d'extrêmement cynique. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il a un niveau intellectuel et une culture extrêmement rare dans son milieu et que donc il peut jouer avec les autres et qu'il peut jouer avec le monde.
Alors, au bout du compte, et de ce portrait, à la fois tout en contradiction, un portrait compliqué, qui a pu l'avoir tué? Ce serait quoi votre hypothèse, vous?
Alors, l'hypothèse, moi je suis ni policier...
Bien sûr, c'est pour ça que je parle d'hypothèse.
Donc, je prends avec beaucoup de recul. Disons qui a été cité? La police s'est intéressée à la question de l'extrême-gauche, bien évidemment, que citait M. Le Pen dans les audios que vous avez passés. L'extrême-gauche, et en plus il y a l'assassinat, vous parliez de tous ces assassinats, il y a l'assassinat de Pierre Goldman après, donc la police s'est intéressée à la possibilité d'un cycle de violence entre extrême-droite et extrême-gauche. Mmh. Cette possibilité-là s'avérait non rationnelle, et l'extrême-gauche petit a n'était pas assez structurée pour faire cela, c'est un attentat, un vrai attentat à la bombe. Petit b n'aurait pas eu la capacité à cacher la chose, etc. Il y a une question centrale. L'extrême droite a essentiellement dit, que ce soit chez les milieux les plus radicaux ou chez M. Le Pen, ensuite, que c'était le Mossad. Donc les services secrets israéliens. Ouais. Il s'avère que les services secrets israéliens ont effectivement fait, on le sait, des attentats à la voiture piégée. Mais ils utilisent toujours un explosif qu'on appelle le plastique. L'attentat qui tue Duprat est un attentat fait à la ménilite. La ménilite est un explosif qu'on utilise dans l'armée française jusqu'à la guerre d'Algérie, qui est un explosif instable et qui ensuite est remplacé par le plastique. Il va rester des attentats à la ménilite en France uniquement faits par les débris de l'OAS. Si vous tuez quelqu'un en utilisant de la ménilite, c'est parce que vous avez été formé dans l'armée française entre 39 et 62 et que vous êtes habitué à cet explosif. Donc là, ça nous reflète d'un coup d'un seul vers ce qui va être la grande question de l'extrême droite en off en 78. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que tout le monde se dit ça vient de chez nous.
Et ça vient de chez nous, et donc d'anciens de l'OS pour le coup.
Alors là, la logique serait bien évidemment quelqu'un qui a été formé ainsi, et il est vrai donc que les attentats qu'on a après 62 à la ménilite sont tous faits par des débris des gens qui sont passés
c'est
par
ça, l'OS. Ce que vous disiez,
ouais. Ça flèche plutôt cela, oui.
D'accord. Mais pourquoi ça vient de chez nous, si j'ose dire, je cite, hein, évidemment.
Oui, de même. Duprat, vous savez, il est exclu quand même, hein, il faut bien voir, il est exclu d'Occident. Il est exclu d'Ordre Nouveau. Il est exclu du Front National. C'est un homme
qui gêne.
Toujours... C'est un homme qui gêne, c'est un homme qui est toujours en train de faire 20 trucs en même temps. Duprat, par exemple, dans le positionnement de droite sociale qu'il invente pour le Front National, il y a l'idée que pour les seconds tours, une fois, on va donner une consigne de voter à droite parce qu'il y a un bon patriote, une fois, même pour un socialiste, pour un homme de gauche, parce que c'est un vrai patriote, dit-on aussi. En fait, Duprat va voir les gens et il leur dit « Vous mettez combien sur la table pour qu'on donne une consigne de vote pour vous ?» Et il les vend. Il les vend même des fois plusieurs fois, au local, au régional, au national. Et il y a l'idée que c'est pas immoral puisque c'est pour la cause. Il ne garde pas l'argent pour lui, hein, c'est pas un corrompu. Donc, il y a cette particularité, ce personnage est toujours en train de jouer. Il lui arrive de faire du chantage également. Hein. Dans le livre « L'argent et la politique » qu'il fait, il fait manifestement un petit peu chanter des gens avant. Est-ce que je mets cette information? Est-ce que je la mets pas? Dans son journal « Les cahiers européens », il rappelle qu'il y a des hommes politiques qui ont un passé criminel et qui pourraient sortir les dossiers, etc. Parce qu'il y en a plein qui ont été reconvertis, l'extrême droite, vers les partis classiques.
En fait, tout ce que vous dites, on sent chez lui, dans son corpus idéologique, une cible, la République.
Ah oui. Une fois de plus, il y a chez Duprat, c'est complètement assumé. Alors c'est amusant parce que Duprat, moi j'ai découvert dans les archives que son père avait été résistant parce qu'il ne l'avait jamais dit, c'était jamais sorti. C'est quand même le seul homme politique que je connaisse qui est honte du fait que son père soit un héros de la résistance. Chez lui, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il y a une adhésion pleine et entière, mais parce que pour lui, la République, le capitalisme, le communisme, ce sont des choses qui sont aux mains de ce qu'il appelle le lobby sioniste. J'ai pas besoin de vous flécher beaucoup les choses. Si aujourd'hui, les gens qui sont habitués au nom d'Alain Soral, la façon dont Alain Soral explique que ce sont les sionistes, le sionisme, qui est le moteur de la transnationalisation du monde, du fait qu'on soit plus dans un monde national mais transnational, c'est quelque chose qui vient très profondément de François Duprat.
Alors, et on en arrive au négationnisme. Qu'il importe.
Et on en arrive tout à fait au négationisme.
Donc là, il y a une espèce de logique intellectuelle. Hein.
Ah, il y a une logique intellectuelle parfaite. Et alors Duprat, le premier négationniste qu'il y a, c'est un Suisse, Gaston Amaudruse, qui était un collaborationniste, donc on est tout à fait dans des choses logiques. Ensuite, en France, c'est d'abord Maurice Bardèche, qui a beaucoup d'influence, qui est un grand intellectuel, hein, qui a été professeur à la Sorbonne, qui a été puré après la Seconde Guerre mondiale, mais qui est un intellectuel tout à fait brillant, et qui a une influence sur Duprat. Sachant que Duprat, d'ailleurs, a été formé aussi par des héros de la résistance au niveau idéologique. Dans l'OS, on croisait plein de gens. Duprat va donner un sens pratique au négationnisme. C'est-à-dire, il ne va pas dire, il s'agit juste de dire que les nazis n'auraient pas été aussi criminels que ça. Il s'agit de dire, c'est ça le fond de la question, que si les médias, les journaux, les juges, les hommes politiques, l'école, les professeurs disent qu'il y a eu une extermination des Juifs d'Europe qui n'a pas eu lieu, cela prouve que les Juifs contrôlent tout, la justice, les médias, l'école, etc. Et il va dire, il va savoir jouer là-dessus, en fait, le vrai génocide, Bardèche dit, le vrai génocide, c'est l'immigration, dans ce qui précède ce qu'on appelle aujourd'hui le grand remplacement, ça se dit dès l'après-Seconde Guerre mondiale. On dit, voilà, le génocide, c'est celui de la race blanche par l'immigration que font les capitalistes juifs. Duprat lui dit, en fait, le vrai génocide important du XXe siècle, c'est celui que commettent les Israéliens à l'encontre du peuple palestinien. Et ce qu'il dit ensuite, le bout de sa logique, c'est « nous sommes dans la même situation de colonisation par les sionistes que celle du peuple palestinien ». Et donc là, il a un argument rhétorique qui devient très fort. Il sort de la Seconde Guerre mondiale, il se met du côté, au contraire, anticolonialiste, qui fait que ça lui permet de sortir aussi de l'OAS, et ça lui permet d'élaborer tout un nouveau discours.
Alors, il rencontre Jean-Marie Le Pen, donc deux destins qui se rencontrent. L'un a vocation à être une incarnation, à être un homme politique, connu, il croit à la stratégie électoraliste, c'est Jean-Marie Le Pen. Puis l'autre a peut-être une vocation à être dans l'ombre et à apporter des idées. Bon, voilà, c'est sur cette base que l'attelage s'est formé. Est-ce que c'est sur cette base-là?
Alors, ce que vous dites est pertinent, parce que Duprat, par exemple, lors de la campagne présidentielle de 1965, où le candidat de l'extrême droite est Jean-Louis Tixier-Vignancourt, mais où l'animateur de la campagne est Jean-Marie Le Pen, Duprat notait, disait Le Pen a un talent formidable, il est extraordinaire, mais combien de gens viennent l'écouter en meeting comme ils iraient au cirque. Donc, il connaît le talent de l'homme. Il sait que Jean-Marie Le Pen, c'est un orateur qui peut être extraordinaire. Mais en même temps, il s'en méfie. Vous évoquiez tout à l'heure la première réunion fondatrice du Front National. Il faut bien voir qu'à ce moment-là, la tension est telle que les gens d'Ordre Nouveau vont voir Le Pen avec un bureau politique écrit sur un papier où Le Pen n'en est pas membre, en lui disant « on peut aussi faire sans toi si tu continues comme ça ». Donc, le premier bureau politique du FN, il n'y a pas le nom de Le Pen dessus. Donc, on a une vraie tension entre ces gens parce que, Jean-Marie Le Pen n'a pas du tout la fibre fasciste. Il ne l'a jamais eue. Il n'a pas la fibre fasciste, il n'a même pas la fibre de l'illégalité. À chaque fois qu'il est contacté par l'OAS, durant la guerre d'Algérie, Le Pen a quelques contacts, mais ça, c'est pas son trip. L'illégalité, il ne veut pas y plonger, il dit toujours à ses proches, c'est complètement noyauté par les policiers, les provocateurs, les indicateurs. Et il a raison, parce qu'en archive, quand on travaille sur les archives de police, comme moi je fais, on revoit effectivement les contacts qu'a eu Jean-Marie Le Pen avec des membres de l'OAS à chaque fois notés. Donc il en est conscient, il ne veut pas plonger. Duprat, au contraire, il n'aime que les jeux à 3, 4, 5, 6 bandes. Donc bon, il se complète.
On va écouter une archive, précisément. Jean-Marie Le Pen, au cours de l'un de ses hommages rituels à Duprat, qu'il effectue chaque année.
Chers camarades, nous sommes réunis ce matin dans ce cimetière Montmartre pour rendre hommage à notre camarade François Duprat, qui fut assassiné il y a aujourd'hui 30 ans. François Duprat était un combattant, était politique jusqu'au bout des ongles, passionné d'intelligence et de liberté de l'esprit. Il est mort comme un martyr de la liberté de l'esprit.
Pouvez-vous nous expliquer, Nicolas Lebourg, pourquoi Jean-Marie Le Pen fait de Duprat un martyr, un modèle, et qu'à sa mort, la mort de Duprat, son héritage a été très rapidement liquidé par le Front National?
Alors, il y a deux choses. Effectivement, à la mort, c'est liquidé. Jean-Pierre Stirbois est persuadé à ce moment-là que c'est l'occasion pour se débarrasser des néo-nazis, des néo-fascistes à l'intérieur du FN. Et Stirbois pense que tant qu'il y a des gens comme ça, on ne peut pas réussir électoralement, que cela laissera le FN au niveau du groupuscule, qu'il faut qu'il se normalise. Par contre, le nom de Duprat va rester important. On va continuer à lui rendre hommage parce qu'il montre que le FN n'est pas un parti comme les autres, qu'on pourrait mourir pour le Front National. Je suis moins convaincu que François Duprat soit mort pour le Front National. Mais il est aussi un marqueur d'importance. Un exemple très simple, 1986, le Front National a 35 députés, c'est le mieux qu'il n'ait jamais fait dans son histoire. Que fait Jean-Marie Le Pen? C'est beaucoup de transfuges de la droite qui sont venus profiter de l'étiquette FN pour se faire élire. Que fait Jean-Marie Le Pen? Il les amène tous au cimetière de Montmartre, se pencher sur la tombe de François Duprat. Et il leur dit, vous venez de franchir le Rubicon, vous nous avez rejoints, vous devez être solidaires de tout. C'est à ça que ça revient. Vous êtes solidaire de tout, y compris d'un homme aussi sulfureux que François Duprat. Vous avez rejoint le Front National, grâce à lui vous êtes élu, vous ne pouvez plus sortir de là, vous ne pourrez plus revenir à droite. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. On voyait bien, par exemple, les quelques fois où Florian Philippot a été interrogé sur la personne de François Duprat, il disait « mais je ne sais pas qui c'est François Duprat, j'ai pas lu François Duprat, ça ne me regarde pas François Duprat, ouais. C'était il y a 40 ans ». Il avait une réponse très vive, très vigoureuse. Alors, Bruno Maigret, lui, en 88, quand il était critiqué à l'intérieur du FN en disant « c'est qu'un ancien RPR, c'est qu'un ancien chiracien », il était allé sur la tombe de Duprat, il avait fait un papier dans le quotidien présent pour dire qu'il tenait à saluer la mémoire de Duprat et qu'il prenait tout l'héritage du Front National.
Alors, est-ce que lorsque Marine Le Pen a exclu son père, on peut y voir symboliquement le dernier acte de dédupratisation du Front National ?
Question complexe. Alors au congrès de 2011, quand Marine Le Pen devient présidente, Jean-Marie Le Pen rend hommage à François Duprat et Bruno Gollnisch, dans un discours assez élégant où il reconnaît sa défaite, parle également de la mort de François Duprat. La seule qui n'en parle pas, c'est Marine Le Pen, avec vraiment cette volonté de « tout ça, c'est le vieux front, avec voilà. moi, on passe à autre chose ». Alors ça demeure ambigu, parce que autour de Marine Le Pen... On sait bien, il y a un certain nombre de ses proches qui viennent d'un groupuscule qui s'appelle le GUDE, un groupuscule qui est d'ailleurs lui-même à l'origine de la fondation d'Ordre Nouveau en 1969, et que ces gens-là sont beaucoup plus proches des idées de François Duprat que celles de qui que ce soit d'autre. En particulier, ce sont des gens dont le slogan était à Paris comme à Gaza, Intifada. Et vous comprenez bien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, cette même idée de l'occupation sioniste à Paris comme à Gaza. Mmh. Donc là, il y a une ambiguïté qui est tout à fait claire. Après, je crois que si on veut raccrocher Marine Le Pen à la question de Duprat, ça sera bien évidemment dans la thématique. Vous savez, Duprat, malgré tout ce qu'on en dit là, quand il est responsable de la propagande du Front National, il envoie une directive interne pour dire, expliquer qu'il interdit tout tracteur raciste, que la dénonciation de l'immigration ne peut pas passer par là, qu'elle ne peut être que sur la question sociale, qu'il s'agit de s'adresser aux classes populaires et aux classes moyennes qui ont peur d'être prolétarisées, qui ont peur de perdre leur travail, et que c'est l'angle social qui permettra de réussir. Là-dessus, dans tout le discours de Marine Le Pen sur cette fibre sociale accrochée à la question de l'immigration, c'est du Duprat. Il faut bien voir que Duprat écrit en 76 de manière très claire « Nous devons aller sur cette question-là, parce que la droite, nous prendrons des voix des classes populaires, la droite nous imitera, et là nous serons normalisés ». Il a cette phrase que répétera souvent Le Pen, « L'électeur préfère toujours l'original à la copie ».
Voilà, donc il y a toujours ce quand même cet héritage, une partie de l'héritage idéologique. Alors, jusqu'au bout de la logique de changement, en tout cas en apparence, du Front National, cette volonté de changer de nom, le Front National qui s'appellerait plus le Front National. Dernière question, alors là pour le coup, il serait dédupratisé complètement, en tout cas en apparence. Le changement de nom du Front National. Réponse sur cette question-là.
Oui, en 15 secondes. Le nom FN, il est proposé en 71 par Duprat, effectivement, pour élargir Ordre Nouveau. Changer un nom, si on ne fusionne pas avec d'autres partis, si on n'a pas un vrai changement, les gens ne sont pas idiots, ils savent très bien que c'est un changement cosmétique, on change le maquillage.
Absolument. Merci infiniment pour tous vos éclairages. Nicolas Lebourg, je rappelle que vous êtes l'auteur, co-auteur d'un livre intitulé François Duprat, l'homme qui inventa le Front National. Merci, au revoir.
Très belle journée.
Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'itinéraire de François Duprat aux racines du Front National. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Clément Vuille qui était à la technique aujourd'hui.